Merci d'écouter Radio Okapi. Il est 8h à Wafanya dans l'Équateur, 9h si vous êtes à Nyanya dans la Grande Orientale. Le journal.
Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les parlementaires africains appelés à soutenir les processus de paix en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, appel lancé hier à Kinshasa par le président du Sénat congolais. C'était à l'ouverture de la 47e conférence des présidents des parlements d'Afrique. Par ailleurs, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni au Nord Kivu demande à l'État congolais d'assumer ses responsabilités de sécuriser les Congolais et leurs biens. Déclaration faite hier à Beni à l'occasion de la réouverture de la pro-cathédrale de Beni-Païda. Et puis, l'ONG appuie aux initiatives de conservation de l'environnement et de développement durable, plaide auprès des autorités scolaires du Nord Kivu d'interdire aux élèves de transporter leurs collations de nourriture chaude dans les récipients en plastique. ICED évoque l'intoxication des enfants par ces emballages. Pour en parler, nous recevons Faustin Yeboné, directeur exécutif de cette ONG. Avant tout, vous le savez, Kinshasa a reçu vendredi une visite de haut niveau. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, est venu pour la toute première fois en visite officielle en RDC. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le président Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement congolais. Les deux personnalités se sont retrouvées à la cité de l'Union africaine. Elles ont scellé des accords stratégiques entre la RDC et l'État du Qatar dans plusieurs domaines, à savoir celui des ports, transports, justice, développement et de la diplomatie, un mémorandum d'entente sur le soutien au projet de réponse d'urgence multisectorielle au Sud Kivu a également été signé. Madame, Messieurs, bonjour. Le président du Sénat, Samalou Kondé, appelle les parlementaires africains à soutenir les processus de paix en rapport avec l'insécurité dans l'est de la RDC. Appel lancé hier à Kinshasa à l'ouverture de la 47e conférence des présidents des parlements d'Afrique. Conférence organisée par l'Union des parlementaires africains UPA. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais a plaidé aussi pour que les parlements africains deviennent des cadres de solutions adaptés aux réalités africaines. Plus de détails avec Josué Kefebe.
C'est dans un contexte de guerre dans la partie est de la RDC que les parlementaires africains se réunissent à Kinshasa pour renforcer la coopération interparlementaire. À cette occasion, Samalou Kondé, président du Sénat de la RDC, a lancé un message de solidarité derrière tous les processus de paix en rapport avec l'insécurité à l'est de la RDC.
Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et celui de Doha entre le gouvernement et la FCM.
Pour sa part, le vice-président du comité exécutif de l'Union des parlementaires africains, Abdoul Essikiye, a, au nom de l'institution qu'il représente, réaffirmé sa solidarité à la population de l'Est du Congo et du peuple soudanais qui font face à une situation humanitaire tragique.
L'Union parlementaire africaine réaffirme sa solidarité avec le peuple congolais et soudanais et encourage toutes les initiatives africaines et internationales visant à ramener la paix.
Sachez que cette 47e conférence des présidents des parlements nationaux africains se clôture ce samedi 22 novembre et entre dans le cadre de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine.
Par ailleurs, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni au Nord Kivu invite le gouvernement, je cite, « Je demande à l'État congolais d'assumer ses responsabilités de sécuriser les Congolais et leurs biens ». Fin de citation. Il a fait cette déclaration hier à Beni à l'occasion de la réouverture de la pro-cathédrale de Beni-Païda après un long moment de réhabilitation. Pour ce prélat catholique, ce moment de vivre ensemble ne doit pas quitter le Congolais, mais il y a nécessité que la paix revienne et que toutes les entités qui sont sous menace sécuritaire et trouvent la paix. L'évêque Sikou Lipalou Koumechisedek s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous ne comprenons plus ce qui arrive dans notre zone. Je l'ai dit à la fête de la messe, en demandant à notre gouvernement qu'ils ont quand même la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens congolais. Nous sommes des Congolais et nous avons le droit de jouir de la sécurité que nous offrent nos dirigeants. Et on a l'impression quand on voit des tueries successives, et presque dans la même zone. Je crois que nous avons peut-être raison de nous poser la question, est-ce que vraiment ils sont capables d'assurer notre sécurité, ou alors nous sommes oubliés. Je reviens de Kinshasa, je n'ai pas eu l'impression qu'on se préoccupe beaucoup d'ici. On ne sait même pas ce qui se passe ici. Nous avons l'impression d'être abandonnés. Et je demande à l'État d'assumer ses responsabilités, d'assurer la sécurité de ses citoyens. Nous sommes des Congolais, nous avons droit à être sécurisés, les personnes et leurs biens.
Du côté de l'Ituri, précisément à Irumu Centre, les acteurs communautaires et les membres de la société civile exhortent le gouvernement congolais à s'impliquer davantage dans le processus de paix. Cet appel a été lancé jeudi lors d'un forum d'engagement politique organisé par l'ONG internationale Mercy Corps, financé par le gouvernement britannique. Ce programme vise à transformer les recommandations issues des dialogues intracommunautaires en actions concrètes pour stabiliser durablement l'Ituri. Compte rendu de Jean-Claude Bloqui.
Chef coutumier, leader communautaire, membre de la société civile ainsi que responsable des services étatiques ont passé en revue les résolutions prises lors des précédents dialogues organisés dans différentes zones d'Irumu. Parmi les sujets discutés, les litiges fonciers et les conflits des limites. Sur ce point, Jean-Baptiste Kato, coordonnateur de la société civile de Babelebe, se dit satisfait des avancées enregistrées.
Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Les gens se fréquentent parce qu'on ne se fréquentait pas. Dans le groupement Tondabo, vous trouverez qu'il y a aussi des communautés aimants qui travaillent sans problème, même de l'autre côté. Nous louons ça, ce qui n'était pas avant.
C'est l'ONG humanitaire Mercy Corps. Cet exercice vise à renforcer la confiance entre les communautés et les autorités locales, un élément essentiel pour prévenir les tensions et consolider la cohésion sociale. Pour Balidia Kisembo, notable de la chefferie de Baïman Boga, l'État doit aller plus loin.
On doit passer à résoudre les conflits pacifiquement et aussi éradiquer les phénomènes des groupes armés, traquer les éléments résiduels des ADF.
Présent à ces assises, l'administrateur du territoire a pris l'engagement, avec l'appui de sa hiérarchie, de soutenir cette démarche et de travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour que la paix s'installe durablement à Irumu. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Un autre appel à la paix. Le conférencier officiel de l'Ordre de la Rose-Croix exhorte les Congolais à cultiver la paix, l'unité et la cohésion nationale. Lors d'un échange avec la presse hier à Kinshasa, Philippe Sarrazin estime que chaque citoyen doit s'impliquer activement dans la restauration de la paix à travers le pays. Pour lui, le développement de la RDC n'est pas seulement l'apanage des dirigeants, mais aussi de la population qui doit s'abstenir des actes inciviques tels que la corruption, le vol, le détournement des deniers publics et autres pratiques qui tirent le pays vers le bas. Philippe Sarrazin est au micro de Blaise Ndonga Lamaenda.
Le changement, il viendra vraiment des masses. Quand le peuple aura intégré en lui cette capacité à établir la paix sans dépendre d'autres personnes, en commençant d'abord par soi-même. Et donc ça, c'est une des forces de l'Ordre de la Rose-Croix. Et puis, on a plusieurs publications également qui sont axées sur tout ce qui concerne la paix. D'ailleurs, je vous ai ramené là un livre qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Contribution à la paix en 12 propositions qu'on évoque pendant notre cérémonie annuelle qui est destinée à la paix. Je contribue à la paix lorsque je m'évertue à exprimer le meilleur de moi-même dans mes relations avec autrui. Je contribue à la paix lorsque je mets mon intelligence et mes compétences au service du bien, lorsque j'éprouve de la compassion à l'égard de tous ceux qui souffrent, que je ne convoite pas les biens d'autrui et ne cherche pas à me les approprier. Je contribue à la paix lorsque je considère tous les êtres humains comme mes frères et sœurs, quelle que soit leur race, leur culture et leur religion, et lorsque je me réjouis du bonheur des autres et prie pour leur bien-être. Je contribue à la paix lorsque j'écoute avec tolérance et respect des opinions qui divergent des miennes ou même qui s'y opposent. Je contribue à la paix lorsque j'utilise le dialogue plutôt que la force pour régler tout conflit.
L'actualité, c'est aussi cet incendie qui s'est déclaré jeudi dans une partie des entrepôts centraux de la CENI à Kinshasa, situé au numéro 3075 de l'avenue des entrepôts, quartier Kingabwa, dans la commune de Limété. Information contenue dans un communiqué de la centrale électorale parvenu hier à Radio Kapi. Aucun décès ni blessé enregistré, cependant des pertes matérielles importantes. L'incendie a entraîné la destruction de plusieurs équipements, parmi lesquels des batteries en lithium lithium et des panneaux solaires. Les premières investigations ont permis d'identifier l'origine de l'incendie localisé dans la salle de stockage des batteries en lithium. Par ailleurs, la mobilisation rapide des autorités de la ville de Kinshasa, l'appui des équipes des sapeurs-pompiers de quelques entreprises de la place et la promptitude des équipes techniques constituées du personnel de la CENI ont joué un rôle déterminant dans l'extinction de l'incendie. Et puis, la coalition Lamuka tire la sonnette d'alarme sur les conditions et les moyens de transport en RDC, selon Prince Epengue. Bien qu'il paie pour se déplacer, les Congolais perdent la vie chaque jour entre le secteur volant, roulant et flottant. En une semaine, un avion s'est écrasé à l'atterrissage sans enquête. Deux baleinières ont fait naufrage avec plus de 100 passagers à bord. Pas d'enquête ni condoléances présentées. On écoute à ce sujet Prince Epengue, cadre de Lamuka, dans cet extrait choisi par Guy Matetsongo.
Les Congolais perdent la vie chaque jour. En une semaine, un avion s'est écrasé à l'atterrissage au Katanga. Il n'y a toujours pas eu d'enquête sérieuse. Les quatre enquêteurs partis se retrouvent bloqués, sans manger, sans billet d'avion pour rentrer à Kinshasa. Des baleinières ont fait naufrage sur la rivière Sankuru et sur le lac Tanganyika, avec pas moins de 100 Congolais qui ont perdu la vie. Aucune enquête sérieuse n'est menée jusque-là. Nous exigeons l'amélioration des conditions et des moyens de transport en RDC. Les statistiques indiquent que chaque mois, 100 Congolais meurent noyés dans les lacs, les fleuves et les rivières du Congo à cause de l'irresponsabilité de ceux qui sont censés organiser ce secteur-là.
Autre nouvelle, à Kinshasa, la Direction générale des impôts a déployé vendredi un impressionnant carnaval motorisé. Objectif, sensibiliser sur l'obligation d'émettre et d'exiger la facture normalisée dès le 1er décembre prochain. La facture normalisée est un document officiel de facturation électronique destiné à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Elle permet de sécuriser les transactions, de lutter contre la fraude fiscale et d'assurer une meilleure traçabilité des ventes et achats. Sa mise en œuvre progressive vise à moderniser le système fiscal et à garantir la transparence dans les relations entre entreprises et administration fiscale. Détails dans ce reportage signé Jocelyne Moussaoupondé.
Parti de la place des évolués, le cortège a longé les grandes artères de la capitale, du centre financier jusqu'à la place Victoire, en passant par des zones à forte activité commerciale comme le marché central de Kinshasa ou le rond-point Willery. Des équipes de la DGI clairement identifiées ont distribué des prospectus et échangé directement avec les contribuables, répondant aux questions les plus fréquentes sur cette réforme qui vise à sécuriser la TVA et renforcer la traçabilité des transactions. Lili Bilonda, directrice chef de service des études, statistiques et communication à la DGI.
Nous sommes en train de faire ce carnaval pour attirer l'attention de tous les opérateurs économiques assujettis à la TVA ainsi qu'à toute la population qu'à partir du 1er décembre 2025, l'émission de la facture normalisée à l'aide d'un dispositif électronique fiscal devient obligatoire.
Sur le terrain, le public salue une initiative jugée nécessaire pour lutter contre la fraude et améliorer la gestion des finances publiques. La Direction générale des impôts rappelle que l'entrée en vigueur de cette réforme est fixée au 1er décembre 2025.
Au Maniema, signalons la clôture officielle du projet du programme de l'agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales, projet de la Caritas Développement Kindu en collaboration avec le Synode provincial protestant. Ce projet de 4 ans a été réalisé dans le territoire de Calais au sud Kivu et dans le territoire de Kailo au Maniema. Financé par NORAD en partenariat avec Caritas Norvège, 2000 ménages du secteur de Balanga dans le groupement de Basiluamba ont été appuyés et formés dans ce sens. Détail avec Florence Kizalunga.
Plusieurs réalisations de ces projets ont été présentées au public au cours d'un atelier de redevabilité ce vendredi 21 novembre. Parlant de l'agriculture durable, la Caritas Kindu a formé la communauté. Abbé Christian Kungwa.
Auprès de la communauté, nous étions censés leur apprendre comment s'est fait l'agriculture pour une meilleure production. D'où il a fallu organiser des séances de formation sur l'agroforesterie, mais également aussi sur les pratiques agricoles durables. Il fallait fallait aussi les appuyer en intrant pour des cultures vivrières et pérennes. Il ne suffit pas seulement dans l'agriculture durable d'apprendre aux gens, mais aussi leur permettre de comment ils doivent utiliser les foyers améliorés.
L'ECC s'est beaucoup plus focalisé sur la protection et la préservation des forêts. Didier Fazili, animateur communautaire.
Nous avons accompagné la communauté de Bassiluamba dans le cadre de la foresterie communautaire. Foresterie communautaire, c'est-à-dire comment ils peuvent protéger leurs forêts et préserver tout en menant leurs activités d'une manière durable. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser cette forêt, mais tout en sachant que demain, il faut qu'il y ait des générations futures qui peuvent aussi en profiter.
Du côté de la communauté, déjà, on observe un changement de comportement. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Plus de 200 élèves et enseignants enlevés dans une école catholique du centre du pays. Ce bilan a été révélé hier soir par l'Association des chrétiens du Nigeria. Il s'agit de 227 élèves et enseignants de l'école Sainte-Marie. C'est le deuxième enlèvement de ce type en une semaine dans le pays après le rapt de 25 lycéennes dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du pays. Rappelons que les autorités nigérianes avaient pris la mesure de fermer les établissements scolaires en raison d'informations du renseignement intérieur sur des enlèvements imminents. Cependant, l'école citée avait ignoré cette consigne officielle.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Faustin Nyebone, directeur exécutif de l'ONG Appui aux initiatives de conservation de l'environnement et de développement durable, ICED. Il revient sur le plaidoyer que son organisation mène auprès des autorités scolaires contre l'intoxication des enfants par les additifs des emballages plastiques. Dans une correspondance adressée le 17 novembre dernier au directeur provincial de l'EPST Nord Kivu, ICED demande que soit interdit aux élèves de transporter leurs collations de nourriture chaude dans les récipients en plastique. Faustin Nyebone s'entretient avec Bernard Nyangi.
Monsieur Faustin Nyebone, bonjour. Que pouvons-nous retenir de votre plaidoyer?
Ok, en effet, nous avions fait une note de plaidoyer que nous avions adressée au directeur provincial de l'EPST Nord Kivu, qui avait pour objet exacerbation de la nuisance des additifs toxiques dans les plastiques sur les cerveaux des écoliers, avec un impact négatif dans l'apprentissage, et cela par la mauvaise pratique de donner la collation aux enfants, la collation contenue dans les récipients en plastique.
Et pourquoi cette démarche?
Parce que selon les statistiques de l'UNICEF, c'est seulement 27% d'élèves de l'école primaire qui ont les compétences de savoir lire. Et les 18 autres savent écrire. Effectivement, c'est une baisse du niveau d'apprentissage au niveau des élèves et au niveau du pays. On sait qu'il y a plusieurs causes liées à cette baisse. Les causes sociales, les causes économiques, il y a les causes génétiques, mais aussi il y a les causes liées à l'environnement. Parce que dans certaines substances qu'on contribuent à l'environnement, notamment les additifs toxiques qu'on trouve dans les plastiques, attaquent aussi les cerveaux. Et on a fait même une petite enquête dans les écoles, on a trouvé au moins à 80%, les parents continuent à donner la collation chaude, peut-être c'est la bouillie, peut-être c'est les repas, que l'enfant va manger à l'école. On met ça dans un récipient en plastique, peut-être une gourde.
À ce sujet, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences des substances nuisibles issues des emballages plastiques sur la santé, en particulier des enfants?
Ces additifs toxiques-là attaquent le cerveau. Et lorsque le cerveau est attaqué, effectivement, ça peut avoir de l'impact sur l'apprentissage. Je vais citer seulement quelques additifs toxiques. Il y a par exemple un additif qu'on appelle phtalate, c'est un retardateur de flamme. Alors, ça impacte négativement le cerveau, notamment ça réduit le volume de la matière grise et blanche du cerveau. Et ça réduit même le quotient intellectuel. Il y a aussi un autre retardateur de flamme qu'on trouve dans les plastiques qu'on appelle les biphénols. Il y a aussi un autre qu'on appelle les paraffines chlorées. Ces substances-là sont neurotoxiques. Donc ça attaque même les neurones, les cellules même du cerveau. Et autre additif qu'on trouve dans les plastiques, il y a aussi ce qu'on appelle les stabilisants du plastique. C'est par exemple les plombs qu'on trouve aussi dans les plastiques. Alors, les plombs attaquent le système nerveux central. Ça peut même prédisposer au cancer du cerveau. Alors, vous voyez que ces additifs-là qui attaquent le cerveau ne peuvent pas être aussi sous-estimés comme cause liée aux difficultés d'apprentissage des élèves parce que ça attaque effectivement les cerveau, qui est l'organe central dans l'apprentissage. Parce que peu importe les techniques pédagogiques qu'un enseignant peut avoir, les parents paient la collation, mais si le cerveau qui va emmagasiner la matière n'est pas en bon état, le cerveau est attaqué par les additifs toxiques, on peut s'attendre à quels résultats? C'est vraiment compliqué.
Et pour terminer, monsieur Nyebone, qu'est-ce que vous attendez des autorités scolaires auxquelles vous êtes adressé à travers ce plaidoyer?
Alors, même si nous ne pouvons pas modifier les gènes et autres causes liées aux échecs des élèves, néanmoins, nous pouvons réduire ces dangers de la nuisance des additifs toxiques dans les plastiques sur le cerveau des enfants et qui ont un impact négatif dans l'apprentissage. C'est pourquoi on a exhorté aux autorités, quand même nous faisons notre part pour sensibiliser, et à leur niveau ils peuvent quand même jouer sur ça, ils peuvent quand même s'impliquer en donnant des messages par exemple officiels aux responsables des écoles, aux enseignants, pour que ces derniers instruisent aux élèves, et ces élèves vont donner les messages aux parents qu'on ne puisse plus leur donner la collation amenée à l'école dans les récipients en plastique. Cette collation qui est chaude va s'imprégner de tous ces additifs toxiques qui vont maintenant détruire le cerveau et ça aura un impact négatif dans l'apprentissage.
Faustin Yebone, merci.
Merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.